RCF.
Un prêtre vous répond, présenté par Catherine Ségouffin.
Bonsoir à tous. Le sport a la force de changer le monde, la force d'inspirer, la force d'unir les gens dans une même direction, comme peu d'autres moyens. Il parle aux gens dans un langage qu'ils comprennent. Vous serez forcément d'accord avec ces paroles de Nelson Mandela. Et si le sport est devenu un langage universel, s'il a pris une ampleur incroyable, en même temps, c'est un fait. Les jeunes comme les moins jeunes sont en perte de repères et de valeur. Alors, quelle est la juste place à faire au sport dans la foi chrétienne? Eh bien, on en parle dès maintenant avec vous. Et je salue mon invité. Bonsoir, Père René Luc.
Bonsoir, Catherine. Bonsoir à tous les auditeurs.
Je rappelle que vous êtes prêtre dans le diocèse de Montpellier, fondateur de Cap Missio. Merci d'être fidèle à cette émission interactive du mercredi soir. Alors, notez bien comment intervenir à l'antenne.
Vous avez une question? Posez-la en direct en appelant le 04 72 38 20 23 ou écrivez-la par courriel à unprêtrevousrépond@rcf.fr.
Père René-Luc, pourquoi ce sujet ce soir tout particulièrement?
Alors, ça remonte à... L'aventure commence il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y a deux jeunes qui ont une maison d'édition qui s'appelle Première Partie, dont un est assez connu, s'appelle Grégory Turpin, c'est un chanteur dans le milieu chrétien assez connu. Et tous les deux ont une boîte d'édition. Ils entendent parler d'une initiative assez originale en Suède. En Suède, une boîte a lancé un magazine. On appelle ça un MOOC. Alors, un MOOC, je ne suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est la réduction entre le book, c'est un livre, et le MOOC, c'est de magazine, volontairement. C'est-à-dire, c'est un magazine qui va vraiment être classe, qui est papier glacé, qui ressemble presque à un livre, en fait. Il sort qu'une fois par an. Donc, en Suède, sort ce magazine où Jésus était le héros. Ils ont trouvé ça assez sympa. Et c'était l'époque où Pascal Obispo, il y a 3 ans, sortait son spectacle sur Jésus. Et il demande à Pascal Obispo, est-ce que vous voulez bien être le rédacteur en chef de ce MOOC? Et il dit, bah, pourquoi pas. Donc, Pascal Obispo, il a des valeurs chrétiennes, voilà, puisqu'il a fait un spectacle sur Jésus, mais enfin, je crois pas que ce soit forcément une grenouille de bénitier, mais enfin, quand même, il s'est prêté au jeu. Oui. L'année d'après, c'est-à-dire l'année dernière, ils ont fait la même chose avec quelqu'un de connu, qui est Ariel Donsbal, et qui a fait une revue plus axée. Donc, le premier était un peu axé sur le spectacle, sur la personne de Jésus. Celui de l'année dernière était centré un peu sur la personne de Jésus, un peu dans le côté artistique, comme Ariel Donsbal est du Mexique. Donc, voilà. Et puis, moi, je suis allé assister à cette conférence de presse l'année dernière à Paris, parce qu'il s'avère que j'étais passage sur Paris pour une conférence, oui. Et mon ami Grégory Turpin m'a dit, est-ce que tu peux passer? Donc j'y vais, j'assiste à la conférence avec Ariel Donsbal, et à la fin de la conférence, Grégory me dit, dis donc, tu voudrais pas participer l'année prochaine, au prochain, faire ton témoignage? Alors je dis, bah ouais, pourquoi pas? Donc du coup, je rencontre la journaliste pendant l'année, etc. Puis je demande, tiens, en fait, qui sera le rédacteur en chef l'année prochaine? Il dit, oh, c'est pas trop, mais ça se peut que ça soit Giroud. Si Olivier Giroud, alors voilà, moi il s'avère que je suis fan de foot, hein, mm-hmm. J'ai toujours aimé le foot. Non, c'est vrai que je me dis, oh, ce serait énorme et tout. Effectivement, ça a été lui. Il y avait d'autres personnes qui étaient prévues éventuellement. Et le magazine est sorti. Donc dans ce magazine, il y a un témoignage assez fort de Giroud. C'est vrai qu'il
est sorti en septembre dernier, hein, je précise.
Il est sorti en septembre. Voilà, il est d'ailleurs en vente à 10 €, mm-hmm. Jusqu'en décembre. Je trouve que c'est un beau cadeau de Noël. Il est très très bien fait. Franchement, il y a des articles assez incroyables. Bon. Il y a mon petit témoignage au milieu, mais je pense qu'il y a vraiment des personnalités assez attachantes. Il y a notamment Olivier Giroud qui raconte, alors je ne veux pas raconter à sa place, mais en gros, si vous voulez, il a toujours eu la foi, parce qu'il a même tatoué sur son avant-bras, assez jeune, je crois vers 20 ans, un verset du psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, ah oui. En anglais. Ou en latin, je ne sais plus exactement. Un ami à lui nous précisera tout ça si on veut. Et puis, il lui-même le dit dans l'article quand il était à Montpellier, parce que vous savez qu'il a été à Montpellier 2 ans. Mm-hmm. Tout à l'heure, j'étais avec Laurent Nicolin. Je lui ai amené la revue Jésus signée par Olivier Giroud pour le Prez, le président. Laurent Nicolin, vous voyez, qui est le président du club de Montpellier. Donc, il a été 2 ans à Montpellier. Et à la deuxième année, Montpellier a été champion de France. Il a été le meilleur buteur. Et contre Paris, dans le dernier match, c'est assez exceptionnel. Et donc...
Alors vous dites qu'il y a des interventions intéressantes dans ce journal, voilà. Et notamment... Et juste...
Juste pour finir, c'était pour dire que quand il était à Montpellier, je voulais juste dire qu'il parlait, il avait évoqué un peu sa foi. Mais là où il y a eu un déclic, là où il a vraiment parlé de sa foi, c'est pendant l'Euro, en 2016. Il y a eu un reportage vidéo sur les Bleus, et le vidéaste le voit en train de lire des psaumes. Il dit, mais Olivier, qu'est-ce que vous lisez? Il dit, je lis les psaumes. Vous accepterez de le mettre dans notre film? Et il dit oui. Et du coup, il a été filmé en train de lire les psaumes et de parler de sa foi, et là, ça a été un déclic. Peu de temps après, il a rencontré un pasteur qui s'appelle pasteur Joël Thibault, et ce pasteur lui a donné encore plus d'assurance pour parler de sa foi simplement, et notamment à la finale de la finale Cup de 2017 en Angleterre, où il a vraiment enlevé son t-shirt pour dire Jésus est mon sauveur, ou je sais plus exactement qu'est-ce qu'il a émis. Et donc depuis, voilà, juste pour conclure, je veux dire que Giroud est devenu vraiment un témoin assez impressionnant, simple, c'est un homme simple, mais qui n'a pas peur de parler de sa foi dans ce milieu qui est quand même assez... Que des Brésiliens parlent de leur foi, ça on est habitué, mais qu'un Français parle de sa foi comme ça, avec simplicité, c'est extraordinaire. Donc voilà, je me suis dit, ça vaut le coup
de faire un
sujet
nouveau
sur ça.
Oui, et c'est plutôt nouveau, comme vous dites, par rapport aux Brésiliens.
Exactement.
Alors, vous parlez du pasteur Joël Thibault, vous l'avez rencontré, eh bien, ce témoin inspirant de cette question du sport et de la foi, eh bien, c'est à nous, ce soir, de faire sa connaissance, car nous l'avons en ligne. On va le prendre, si vous voulez bien, tout de suite, Père René-Luc.
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer en allant à Londres, où on avait une rencontre avec Joël Thibault, avec toute cette bande de première partie, et avec bien sûr Olivier Giroud. On a passé un moment extraordinaire, et donc je suis très très content d'avoir à l'antenne ce pasteur.
On va l'accueillir, il va nous en parler.
Extraordinaire.
Oui, bonsoir Père Pasteur Joël Thibault. Vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir Catherine, bonsoir René-Luc.
Salut Joël.
Merci de nous appeler.
Ben, merci à vous de l'invitation.
Alors peut-être d'abord, vous êtes pasteur dans le diocèse de Rennes, peut-être dois-je préciser, et aumônier donc auprès des sportifs de haut niveau depuis plusieurs années. Donc merci d'être là, nous vous écoutons.
Oui, merci. Alors je suis pleinement concerné par votre propos sur le sport et la spiritualité, et quelle place trouver pour le chrétien par rapport au sport. Et de parler aussi de ce magazine Jésus, oui, donc pour compléter ce que René-Luc disait, effectivement, ces trois dernières années, Olivier témoigne de plus en plus ouvertement de sa foi et affiche le nom de Jésus, que ce soit par des t-shirts, que ce soit par des interviews dans différents médias, comme le Figaro, qui a révélé en avant-première le fait qu'il allait participer à ce magazine Jésus, parce que ça s'est fait assez naturellement contre tout communiqué de com. Il nous a précédé sur ce coup-là, et c'est sorti dans la presse un peu plus tôt que la sortie du magazine.
Alors, et vous, pour raconter un petit peu votre histoire, vous étiez passionné très jeune déjà de sport. Ça a commencé comment ?
Alors, ça a commencé très naturellement avec les copains d'école, dans le quartier aussi, à jouer sur les terrains mis à disposition par la commune. Donc, dès l'âge de 6 ans, j'étais déjà passionné pour jouer avec les copains. Et puis, mes parents étaient un petit peu réticents pour m'inscrire en club au départ. Et puis, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé le football en club jusqu'à l'âge de 20 ans, où ça a été vraiment une passion pour moi qui a été grandissante, et j'ai cherché à construire mon identité, ma quête de reconnaissance, parce que ça marchait bien pour moi en catégorie jeune, en évoluant au plus haut niveau régional, même avec une accession en national, où un entraîneur qui était issu d'un club professionnel m'avait convoqué dans son bureau pour me faire part de qu'il voulait que je sois dans ce projet national avec lui. Ça m'avait beaucoup surpris et aussi enthousiasmé, et je cherchais vraiment mon idéal dans ce sport, mais au fond de moi, j'étais pas heureux. J'étais assez lunatique, j'étais assez mon attitude, mes humeurs étaient liées à mes performances et aux résultats, et ce qui pouvait me plonger des fois dans des profonds moments de tristesse. Mmh. Et puis j'ai eu un déclic à l'âge de 18 ans, alors que j'étais pas heureux à travers le football, j'étais pas heureux dans ma vie de tous les jours, et je me suis dit je vais faire la fête pour être heureux. Et puis là, j'ai bu plus que mesure, et j'ai fait n'importe quoi. Et ce soir-là, ça a été un cri du cœur, et j'ai dit « Dieu, j'ai entendu parler de toi quand j'étais plus jeune par mes parents. J'ai eu l'occasion d'aller à l'église, mais J'avais laissé ça de côté parce que le football prenait trop de temps dans ma vie. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, il faut que tu interviennes parce que là, je vais partir à l'université de sport. Je vais être dans un environnement particulier qui est assez festif et j'ai pas envie que ma vie se détruise. Ce que j'ai fait ce soir est mauvais. Je reconnais que je suis pécheur et si tu existes, j'ai besoin de découvrir ton pardon. Et ça a été le début d'une aventure. Je suis rentré de cette soirée d'été. Je suis rentré chez moi et ma mère m'a tendu un livre avec une pensée quotidienne, avec des versets à lire chaque jour. Et j'ai commencé à lire ça en étant à l'université. Je suis tombé amoureux de Jésus et ça a changé mon monde. Ça a changé ma perspective du sport. Et j'ai vraiment découvert Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et alors que j'allais atteindre l'apogée au niveau du football, alors que j'étais entraîneur de jeunes et qu'on me proposait le métier, le contrat que j'attendais depuis longtemps, j'étais face à un dilemme et j'ai dit non parce que j'ai décidé de couper avec le football parce qu'il était devenu trop important dans ma vie. C'était devenu comme une religion aujourd'hui. Aussi, oui. Et j'avais besoin de trouver cette paix intérieure que seul Christ pouvait me donner. Et j'ai coupé parce que j'avais besoin de me retrouver avec des frères et des sœurs et de pouvoir aller à l'église. Et donc, à l'âge de 21 ans, j'ai pris le baptême dans une église évangélique à Angers.
Ben, quel témoignage. Merci, merci beaucoup, Père René-Luc. Est-ce que vous avez quelque chose à...
Oui, oui, juste rajouter pour Joël, parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a des gens qui voient pas trop l'intérêt d'avoir des vedettes comme Giroud témoigner leur foi. Il me semble, Joël, tu me confirmes, parce qu'on a pas mal échangé tous les deux, que toi, dans ton adolescence, avant ce moment de la conversion, t'étais quand même impressionné par ces figures sportives qui donnent leur vie au Christ. Je me trompe pas, Joël?
Non, alors oui, c'est arrivé plus tard en fait. Je m'y suis intéressé à partir de 18 ans quand j'ai fait ce cheminement avec Christ. Et il se trouvait que j'avais entendu dans mon adolescence, entendu parler qu'il y avait un joueur du SCO d'Angers qui fréquentait notre église, mais sans jamais vraiment le rencontrer. Et au moment où j'ai commencé à retourner à l'église, il a été un grand frère dans la foi pour moi. Il m'a épaulé, il m'a conseillé. Et quand j'ai mis une pause avec le football, il est venu me rechercher pour m'encourager à reprendre, parce que pour m'appeler à être témoin au milieu des sportifs en fait. Et je remercierai jamais à tes footballeurs, Cissé Baraté, qui a été international pour la Côte d'Ivoire aussi, et avec qui je garde une grande amitié aujourd'hui, qui a joué ce rôle. Et effectivement, après, il y a eu Edmilson à Lyon qui détonnait et qui nous a rendu fiers d'être chrétien et aussi évangélique, où c'était rare aussi ou pas très bien vu à cette époque-là. Et qui lui osait témoigner dans le plus grand club français, le club qui remportait tous les titres, l'Olympique Lyonnais.
Super.
Eh bien, merci Joël Thibault, merci beaucoup de votre intervention passionnante et à propos. À bientôt.
À bientôt, merci à vous.
On vous laisse poursuivre l'écoute de l'émission. Merci,
merci
beaucoup.
Joël, à
avec
bientôt.
Attention.
Merci.
Père René-Luc, oui, quel beau témoignage, quelle belle rencontre. Que grâce à vous, nous faisons aussi ce soir.
Oui, on pourrait parler encore plus longtemps de Joël, mais j'invite vraiment les lecteurs à acheter ce magazine, parce qu'il faut savoir que Joël a été sollicité. C'est pas lui qui s'est présenté comme ça, mais il a été sollicité comme aumônier des sportifs de haut niveau, par exemple, mais de manière officielle par le Comité olympique. Il y a des aumôniers qui sont sollicités. Lui, il a été sollicité, par exemple, lorsqu'il y a les Jeux olympiques. Joël va aux Jeux olympiques officiellement avec une carte. C'est pas lui qui s'est faite. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Il a un contact assez incroyable avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Il connaît en particulier Olivier Giroud, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2016, il y a une relation d'amitié qui s'est créée, et c'est Giroud lui-même qui parle de Joël comme étant celui qui a été le moyen. Mais c'est quand même incroyable de voir que le Seigneur utilise des personnes comme ça qui ouvrent des portes qui sont géniales.
Eh bien écoutez, sur cette belle introduction, on va mettre quelques notes de musique pour faire venir les auditeurs à l'antenne. Donc je rappelle notre numéro 04 72 38 20 23 ou bien 04 72 38 20 23 pour la Belgique. Un prêtre vous répond @rcf.fr et notre courriel. Voilà, donc autant de moyens pour vous d'intervenir, de venir poser votre question ou simplement témoigner auprès du Père René-Luc. Nous sommes sommes ensemble jusqu'à 22h. On part en musique, on attend vos appels sur ce thème passionnant de la juste place du sport dans la foi chrétienne. Alors je suis obligée de couper cette magnifique extrait de Zadok the Priest de Georg Friedrich Händel, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une source d'inspiration de l'hymne de la Ligue des champions de l'UEFA.
Vous avez une question ? Posez-la en direct en appelant le 04 72 38 20 23 ou écrivez-la par courriel à unprêtrevousrépond@rcf.fr.
Quelle est la juste place à faire au sport dans la foi chrétienne ? On en parle avec vous, René Luc, sur RCF et jusqu'à 22h. En attendant de prendre notre premier auditeur, Olivier de Fréjus, juste pour regrouper un petit peu tout ce que notre sujet va toucher ce soir, Père René Luc, en quelques mots. Ça va toucher aux signes religieux pour des personnes médiatisées, on l'a déjà abordé, mais pas que, Père René Luc.
Oui, on va aborder beaucoup de choses, mais c'est vrai que déjà, lorsqu'on parle du sport, il y a un grand sportif qui aime beaucoup parler du sport, c'est le pape François, figurez-vous, qu'il est passionné de foot. Alors, il a eu un poumon on l'a opéré d'un poumon suite à une maladie, donc il n'a pas pu pratiquer aussi longtemps, mais il était passionné. Et il a, chaque fois qu'il y a eu quand on va sur Internet, on trouve énormément de choses sur Internet, que des interventions du pape sur le sport. Et donc, il aborde beaucoup de sujets, par exemple, rien que le fait du jeu. En fait, c'est bête, mais il dit, est-ce qu'on réalise qu'en fait, notre vie, on ne peut pas ne pas jouer ? Même en tant qu'adulte, c'est ça qui est incroyable. Quand on regarde un match de foot, il y a des gens qui sont avec les auditeurs qui n'aiment pas du tout le foot, mais je sais pas, quand on regarde du patin artistique, quand on regarde du vélo, chacun dans sa passion, quand on regarde de la planche à voile, quand on regarde, voilà, que ce soit à la télévision, soit en direct, on sent bien que les gens qui font ça, ils sont dans le jeu, c'est-à-dire c'est de la détente. Et donc, ça, c'est un aspect très important qu'on peut évoquer, c'est la place du jeu dans nos vies. l'envie, c'est-à-dire de la détente. Il y a un autre aspect qui est très important, moi je trouve, c'est en tant que sportif, j'ai toujours fait du sportif depuis toujours aussi, c'est la place de notre corps. Comment notre corps aujourd'hui, moi il y a une image que j'aime beaucoup, je sais pas si vous la connaissez Catherine, je sais pas si les auditeurs la connaissent, c'est une image où on voit l'évolution de l'homme. Alors on voit l'homme qui est l'homme de Cro-Magnon complètement courbé, vous voyez, il a une sorte de masse à la main, il est comme à quatre pattes. Et puis avec le temps, il se redresse, et là, il devient un bel homme du début du siècle, avec sa petite moustache, son habit de 1930, par là. Et puis après, on le voit petit à petit, il y a l'arrivée de l'informatique, et on le voit qu'il se reprend la même position que l'homme de Cro-Magnon, accroupi devant son écran, et complètement, vous voyez, complètement, je dirais, sclérosé, complètement paralysé, complètement... Et c'est fou. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on ne travaille plus manuellement, et que le sport nous donne une activité physique qui est fondamentale. Et tous les médecins vous disent faites du sport. Je dirais même qu'il y a des problèmes d'arthrose qui se guérissent par le sport, dans le sens que parfois le fait, même quand on a mal, de se surpasser un peu et de sans trop forcer peut, c'est pour ça qu'on va avoir des kinés, etc. Donc oui, la place du sport, puis il y a plein d'autres sujets, par exemple bien. Pourquoi voilà, on va continuer, mais voilà, j'ouvre des pistes, mais on pourrait parler pendant des heures sur ce sujet.
Tout à fait, c'est pour que voilà, nos auditeurs puissent savoir, vous avez le choix, vous pouvez parler de beaucoup de choses au sujet du sport et de la foi. Et c'est une bonne transition d'ailleurs, tout ce que vous venez d'évoquer, pour accueillir notre premier auditeur, Olivier de Fréjus. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez baisser votre radio au maximum, s'il vous plaît?
Oui.
Et on est tout oui, on vous écoute. Bienvenue. Vous êtes avec nous, Olivier?
Attendez 30 secondes, voilà, je suis au minimum. Voilà, oui, je vous ai à l'antenne.
Parfait.
Je suis Olivier.
Oui.
Je me présente parce que j'ai une foi énorme et je voulais dire que par la prière et la méditation, c'est un sport formidable pour mon esprit et mon âme, et je demande toujours au Seigneur et à Dieu notre Père de me fortifier sur ma présence divine et intéressante sur le sujet de la foi, qui augmente à chaque fois mes forces, tous les jours, chaque minute et chaque seconde. C'est un véritable miracle, je voudrais vous dire.
Bien. Père René-Luc, que pouvez-vous dire à Olivier, voilà, sur cet aspect, finalement, cette forme de sport aussi, qu'est la méditation et la spiritualité?
Oui, que c'est superbe, à part que ce n'est pas le sujet de ce soir.
C'est la façon de voir d'Olivier.
Voilà, mais ce n'est pas le sujet. Enfin, oui. C'est le sujet de la méditation.
Bah, moi, je ne suis pas cycliste, hein, je suis désolé.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Mais sa question, c'était, est-ce que ce sport, ce type de sport, peut nous apporter une force physique?
Le sport de l'esprit.
C'était votre question.
Le mental.
Bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est le sujet de l'oraison. J'ai déjà fait avec Catherine des sujets sur l'oraison, la méditation. Et là, ce soir, j'aimerais qu'on parle du sport. Mais voilà. On peut faire un lien. Ça y est, j'ai trouvé.
Voilà. Bravo. Merci.
C'est évident que les personnes qui font, par exemple, des sports de relaxation, le yoga ou des choses comme ça, mettent une dimension spirituelle dans leur corps, et que du coup, ça peut. Il y a par exemple des sportifs de haut niveau qui font aussi. Alors, le yoga, je fais attention en disant ça parce que dans le milieu chrétien, il y a un certain yoga qui peut ne pas être très bien compris.
Oui.
Mais je parle juste pas d'un yoga mal compris. Je parle juste du côté un peu. J'ai des amis très sportifs qui font des positions de stretching, on va dire, et donc ils se concentrent, ils sont à l'intérieur d'eux. Mais pour moi, ça c'est on peut faire le lien comme ça. Mais personnellement, quand je fais oraison, je fais pas de sport. Moi, je fais de la méditation. Voilà, c'est pas le même moment. Enfin, c'est deux mois décalés. Voilà. Mais merci beaucoup.
Olivier.
Au revoir.
Je vous en prie. Au revoir.
Alors, on ne peut pas ne pas évoquer Nelson Mandela, qui a prouvé combien le sport a le pouvoir de changer le monde. Père René-Luc, Laure nous envoie cet article qui dit « Nelson Mandela a pris des coups dans sa vie. De 27 ans de réclusion, on en sort difficilement indemne. Madiba ne s'est pas contenté de recevoir ses coups. Il les a rendus, au sens figuré, en abolissant le régime de l'apartheid au sens propre, en enfilant des gants. Dans les années 50, le prix Nobel de la paix venait taper le sac de frappe dans une salle de boxe de Soweto, une
d'une banlieue noire située à 15 km de Johannesburg. Et elle finit l'article en disant « Et selon Hugo Porta, rugbyman argentin et ancien ambassadeur à Pretoria, il était même passionné et très bon. » Alors la métaphore est belle, sa vie, à l'image de la boxe, a été un combat permanent. Que ressentez-vous à l'évocation de cette figure emblématique, Père René-Luc, si j'ose dire, vous qui aimez bien les métaphores?
Ben déjà, il doit être heureux, hein, Mandela, parce que vous savez que à son époque, l'Afrique du Sud a été championne du monde de rugby et elle vient juste d'être championne du rugby.
Exactement.
Il y a deux jours.
Ah, j'ai suivi moi aussi. Hein.
Oui, donc ça doit être très 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 heureux. Mais c'est là qu'on voit bien que justement le sport peut être, on le voit bien dans. Alors je m'excuse, j'ai un trou de mémoire, mais vous vous rappelez peut-être le fameux film sur.
Invictus. J'allais le dire, Invictus, ça donne voilà. Très envie de revoir voilà. Le film.
Exactement.
Le voir ou le revoir, en tout cas.
C'est et vraiment... on voit comment même le sport peut amener, si vous voulez, une ouverture sur un pays au niveau de la politique, au niveau. Ça, rappelez-vous, bah, puisque vous évoquez ça, lorsque aux Jeux Olympiques de Berlin, les trois vainqueurs qui avaient levé le poing en signe de résistance au nazisme. Vous voyez, donc le sport, il y a aussi des valeurs fortes humaines. Mm-hmm. Et je pense que c'est important de se le rappeler parce que je vous disais tout à l'heure que c'est d'abord un jeu, mais oui. C'est un jeu qui a un tel écho parce qu'en fait, pourquoi le sport, ben, il y a Arnaud Boutéan, qui est un ami, qui a écrit un livre « Comme un athlète de Dieu, manifeste sportif et chrétien ». C'est un très très bon livre qui est sorti aux éditions Salvator, donc dans les années, il y a deux ans je crois, ou l'année dernière, voilà, il est très récent. Et donc il évoque que les premiers jeux, en fait, oui c'est ça, 2017, édition Salvator 2017, Arnaud Boutéan comme un athlète de Dieu. Il évoque que les premiers jeux étaient évidemment, malheureusement, les jeux grecs, etc., mais aussi un mélange avec les jeux du cirque. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le sport et qui disent mais c'est pas normal quand on voit tous ces hommes, surtout ces hommes là, quand ils sortent du stade, ils sont tout excités, il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a une sorte de passion qui va au-delà de la raison, voyez. Mais comment ça se fait que ça touche autant de monde? C'est parce que quelque part ça fait vibrer des choses en nous. Et donc il y a un levier, le sport est un levier énorme et s'il est bien utilisé, comme pour Nelson Mandela, il peut amener des changements positifs. S'il est bien utilisé, il peut amener de la fraternité, de la paix. S'il est mal amené, cette foule, on fait un peu ce qu'on veut d'une foule. Eh bien, elle peut amener dans la violence. On a eu les hooligans, etc. Donc c'est ça qui est pas évident. Mais ce que je trouve dommage, c'est que parce qu'il y a des hooligans, parce qu'il y a des gens qui prennent le sport comme, vous savez, c'est assez récent que le sport business, malheureusement, on a tendance à stigmatiser tout d'un coup. Et je pense qu'il faut un équilibre et c'est le but de notre émission de ce soir.
Tout à fait. Nous avons deux auditrices en attente. Eh bien, nous allons les accueillir après ceci.
Vous avez une question? Posez-la en direct en appelant le 04 72 38 20 23 ou écrivez-la par courriel à unprêtrevousrépond@rcf.fr.
Quelle est la juste place à faire au sport dans la foi chrétienne? C'est notre thème ce soir. Deux auditrices en attente. Nous allons commencer par Jeanne depuis Brest. Bonsoir Jeanne, merci d'avoir patienté. Nous vous accueillons.
Catherine. Bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir mon père.
Bonsoir.
Ne peut-on pas dire, en effet, Catherine, mon père, que le sport est un moyen même de rendre grâce à Dieu de la santé qu'il nous a donnée et de mettre au service de grandes causes le sport? Je pense à ces femmes qui font la course contre le cancer du sein pendant l'Octobre rose, qui pensent à leurs sœurs qui sont dans la souffrance ou à ceux qui, pour lutter contre la mucoviscidose, font également des activités sportives pour financer des projets. C'est un moyen de dire merci, je pense, à Dieu d'avoir de la santé et de mettre sa santé au service d'autrui. Et enfin, j'évoquerai, avec votre permission, la figure d'une danseuse professionnelle qui s'appelle Mireille Nègre, qui a une spiritualité très intense, qui est même passée par le Carmel, qui en est sortie pour des raisons de santé, et qui dansait pour Dieu, qui offrait une action de grâce par la danse. Voilà, c'était une danseuse qui s'est fait connaître dans les années 80. Et voilà, donc Dieu qui nous donne un corps qui peut être un langage d'action de grâce et aussi qui nous permet de venir en aide pour soutenir des causes de nos frères humains.
Très joli. Très joli témoignage. Merci Jeanne. Père René-Luc.
Oui, alors il y a deux très très belles interventions de Jeanne et il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, les gens en bonne santé sont souvent sensibles à donner un coup de projecteur sur les personnes qui ont un handicap. Je pense par exemple à des amis de Montpellier qui faisaient un semi-marathon et qui ont amené avec eux, je connais plus le terme technique parce que c'est ils sont à deux si vous voulez, et il y a une personne avec un handicap, une sorte de je sais plus s'ils appellent ça, je me rappelle plus, je voudrais pas dire une bêtise, c'est un nom particulier mais je me rappelle plus comment il s'appelle, avec une sorte de grosse roue, et donc les deux personnes valides courent en poussant cette et un devant un derrière cette sorte de charrette, je sais pas comment on l'appelle, j'ai peur de dire une bêtise, s'il y a un auditeur qui s'en rappelle, c'est un nom particulier
et ça c'est magnifique. Joëlette, c'est ça?
Parce peut-être c'est ça,
la technique me souffle. C'est ça,
une
c'est
Joëlette.
Joëlette.
Oui, c'est ça.
Merci,
voilà, c'est
Pascal.
Ça, tout à fait. Merci Pascal. Et c'est magnifique parce
c'est
que la personne
d'équipe,
elle,
hein. On
tout
revient.
À fait ne peut pas courir, exactement, bravo, ne peut pas courir et elle se trouve portée, et vous imaginez la joie de franchir la ligne d'avenir et le sacrifice que font ces personnes, voilà, ça c'est magnifique. Et puis un autre aspect, c'est aussi les personnes avec un handicap. Il y a les Jeux paralympiques, vous savez maintenant, oui, qui prennent de plus en plus d'ampleur, ils sont, mmh, à la télévision alors qu'avant on n'en entendait pas parler, et ça je trouve ça extraordinaire. Et je peux vous assurer que moi quand je vois, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a pas de jambes, il a juste un tronc et des bras et qui traverse la Manche, je me dis mais comment ces hommes ont une ressource psychologique, une force. Nous on n'a plus envie de se plaindre avec nos petits bobos, vous voyez, on a un peu d'arthrose, un peu mal aux jambes ou je sais pas quoi, et on voit ce gars-là qui a une telle puissance en lui d'aller au-delà dans son corps, le reste, ce qui lui reste, c'est-à-dire il a plus de jambes mais il a encore les bras et tout ça, il se plaint pas et il fait des choses incroyables. Moi je me dis mais c'est fou, et encore une fois le sport va permettre à des personnes, je connais énormément de sportifs de personnes avec un handicap qui grâce au sport ont gardé, suite à un accident de voiture etc, c'est le sport qui leur a donné la force de vivre, voyez. Donc le sport a vraiment des valeurs incroyables parce que ce sont des valeurs de courage et de résilience aussi,
de persévérance, de dépassement
de soi, exactement.
En fait ce sont tous des termes du langage sportif qui appartiennent autant au registre de la foi.
Tout à fait.
Oui, vous avez quelque chose à ajouter? On a Yvette en attente, je lui demande de patienter.
Eh bien, on prend Yvette, je rajouterai après.
Ok. Yvette, vous êtes avec nous?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Yvette, vous êtes à Roanne. Vous êtes la bienvenue, on vous écoute.
Ça a changé. Hein.
Merci. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste rendre hommage à ces sportifs stéphanois qui parrainent, par exemple, une association. Je me souviens d'une grand-mère en maison de retraite qui avait affiché une photo avec son petit-fils et un champion de foot stéphanois qui était là soutenant ce petit garçon handicapé. Mmh. Et puis je voulais aussi offrir un clin d'œil à Monseigneur Lebrun qui est toujours sans doute un passionné de foot et qu'on voyait souvent sur le stade à Saint-Étienne, dans le Chaudron. Voilà, et merci pour votre émission.
Merci Yvette d'avoir pris votre téléphone. Père René-Luc.
Ben merci Yvette, oui c'est vrai qu'on a tous à l'esprit comme ça des personnes qui nous ont marqués et qui ont eu une présence touchante dans le magazine Jésus. Il y a Olivier Giroud, bon il y a beaucoup de figures de sportifs, il y a pas qu'Olivier Giroud, hein, vraiment c'est impressionnant, et Olivier Giroud a fait son 11 de sportifs, c'est-à-dire qu'il a fait il a classé ses 11 meilleurs joueurs pour faire une équipe de foot. Et il en a cité un que j'aime beaucoup. Évidemment, on est très attaché à lui en tant que Montpelliérain, parce que moi, je soutiens évidemment le club de foot de Montpellier.
Évidemment.
C'est Vitorino Hilton. Et figurez-vous que c'est le plus ancien joueur de foot de la Ligue 1. Devinez, Catherine, quel âge a ce joueur de foot qui est le capitaine de l'équipe de Montpellier et qui est le défenseur central?
Je
dites
sais
un
pas.
Chiffre.
Ah, je ne sais pas.
Vous y connaissez un peu en foot ou pas trop?
Oh, léger, hein.
Léger. Alors, disons qu'en moyenne, vous voyez, bon, Giroud, il a 33 ans, d'ailleurs, l'âge du Christ. Et en moyenne, si vous voulez, c'est vrai que les carrières de footeux, c'est rare que ça dépasse autour de la trentaine, vous voyez.
Bien sûr.
Donc, c'est vraiment rare. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. En général, 32, 33, c'est la limite. Eh bien, figurez-vous que Vitor Hilton, il a 42 ans. C'est incroyable, hein. Et cet homme-là est un homme de foi. Il est brésilien. Et Giroud en parle aussi. Donc, c'est magnifique de voir qu'il y a des personnes qui comme ça sont dans la durée, sont un peu des modèles et des exemples, des figures simples. Je connais comment il s'appelle, vous savez tous que notre comment s'appelait Yvette, ça tout
oui,
à l'heure
Yvette
nous, nous a parlé. On aurait pu aussi citer, si je me trompe pas, le cardinal Barbarin, qui faisait toujours des footings très très réguliers, même je crois même plus que des footings, des sortes de marathons, qui est un grand sportif aussi, discrètement. Et je pense que ben, les épreuves qu'il a traversées, peut-être que le fait d'avoir une comme ça un lien physique avec le sport, ça a dû l'aider énormément.
Certainement. Merci. On remercie donc Yvette pour son témoignage. On va accueillir maintenant eh bien Xavier qui habite près de Fouesnant, près de Quimper. Fouesnant ou Quimper ou entre les deux. Bonsoir Xavier.
Bonsoir madame. Et bonsoir Père Luc.
On vous écoute. Vous êtes le bienvenu. On écoute votre témoignage.
Eh ben mon témoignage, c'est que dans ma communauté de l'Arche de Jean Vanier, on travaille beaucoup autour du bois et le sport, on en fait aussi parce que c'est physique des fois de changer une lame, de porter des poids lourds. Déjà ça c'est du sport ça. Mm-hmm. Et à côté, mon frère jumeau, Philippe, moi c'est Xavier, il m'a dit bah va faire un cross, ça te fera du bien, ça te sortira. Et le sport, c'est pour moi, c'est une ouverture de notre corps vers Dieu.
Bien. Merci.
Tout à fait.
Merci Xavier pour votre témoignage.
De rien.
Oui, c'est très beau. Xavier nous parle de l'Arche de Jean Vanier. Moi, j'ai eu une autre expérience, c'est que je connais assez bien la communauté de Tchénacolo. C'est une communauté qui se trouve, il y a deux maisons en France, une à Lourdes et une autre à Ars. C'est des jeunes qui sont des anciens drogués. Et le sport est très important dans leur communauté. Ils font beaucoup d'activités physiques et ils font évidemment du sport. Mais chaque fois qu'ils font du sport, ils font toujours, figurez-vous, un chapelet autour du stade, après ou avant le match, je ne me rappelle plus exactement, parce que comme c'est des anciens drogués, ils sont pleins de vitalité, et c'est quand on fait du sport qu'on se révèle soi-même. Quand on est en communauté, on peut se cacher un peu, mais quand on est sur un terrain, le gars, il y a tout qui sort, et du coup il y a des pardons à se donner, il faut vivre ça dans l'humilité. Et ce que nous dit le pape François à plusieurs reprises dans ses interventions, il dit, vous voyez, le sport, il y a des règles. Imaginez que si on tire le coup de feu pour du départ, le gars il part avant, ben, ça marche pas. Si on respecte pas les règles, si on respecte pas le hors-jeu, si on fait tout n'importe quoi, évidemment ça peut pas marcher. Donc il faut respecter les règles. Donc c'est un vrai apprentissage pour la vie. C'est-à-dire ces hommes, ces jeunes du Tchénacolo qui ont une vie très dure, ils doivent reprendre un lien avec la règle, alors qu'ils sont habitués à pas respecter les règles et à ne pas rendre les coups par les coups, mais entrer dans une sorte d'esprit d'humilité et de convivialité, accepter qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et le pape François dit cette chose magnifique, il dit, vous avez remarqué que le mot que l'on prend pour parler d'un match, alors pardon, je parle surtout du foot parce que c'est un peu le sujet avec le magazine d'Olivier Giroud, mais on pourrait parler d'autres sports, mais on parle d'une rencontre sportive. La rencontre de l'OM du PSG ou je sais pas quoi, ou de, on ne parle pas d'une confrontation ou d'un combat. La rencontre, c'est quoi? La rencontre, c'est la rencontre de deux équipes qui vont jouer ensemble l'un contre l'autre. Ce sont des adversaires, c'est vrai, mais on s'est rencontrés, il y a un gagnant et un perdant, on se serre la main à la sortie et on avance, quoi. C'est une rencontre, le sport est une rencontre.
Très bien, on remercie Xavier pour son témoignage. J'ai un courriel de Françoise qui écrit, je pense très fort, en vous écoutant à l'exhortation de Saint Paul au sujet concernant la course de relais vers le but, trois petits points de suspension, je sais en qui j'ai mis ma confiance, la vie chrétienne, une vie d'endurance. Est-ce que ça vous parle, Père René-Luc,
ce
message de Françoise?
Ben, ce que j'aime beaucoup dans ce que nous dit François, c'est qu'elle a relevé qu'il y a plusieurs versets de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un sportif, hein, on le voit à plusieurs reprises. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens, il dit « Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai obtenu la couronne de la victoire, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant, je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. » Vous voyez ? Et un peu plus loin, dans l'épître aux Timothée, il dit « L'entraînement sportif est très utile, mais ça ne sert pas à grand-chose. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. » C'est génial, je trouve. Il prend beaucoup d'images. Bon, il y en a d'autres, hein, que la couronne de gloire, elle se fane quand on a gagné une course, mais que la couronne de Dieu ne se fanera jamais. Donc effectivement, la parole de Dieu, et notamment dans les lettres de Paul, il y a beaucoup, beaucoup d'allusions au sport. Je suis persuadé que Paul était un sportif qui a même, à mon avis, comme était de culture grecque, certainement pratiqué le sport à son époque à un bon niveau. Et après, il s'est converti, il était devenu le sportif de Dieu, mais c'est pas rien.
Certainement. Eh bien, on met quelques notes de musique à nouveau. C'est RCF que vous écoutez. Un prêtre vous répond. Est une émission hebdomadaire interactive. Alors, de nouvelles questions juste après la musique pour le père René Luc ou par courriel. Par courriel, un prêtre vous répond @rcf.fr ou par le téléphone 04 72 38 20 23.
J'ai découvert la vérité. En toi, j'ai retrouvé ma dignité. Tu es mon repère, toujours tu es là pour me relever. Quand je perds courage, je trouve en toi la force d'avancer. En toi j'ai su que l'amour existait vraiment. Moi j'en doutais et pourtant. Tu as su guérir ceux qui au fond me faisaient mal. J'ai trouvé la paix en toi. C'est la liberté. Le bonheur. Tu n'es pas là pour rester au point où tu en es. Dieu t'a donné à toi de partager. Tous tes talents ne sont pas ici pour sommeiller. Dieu t'a donné, c'est à toi de bouger.
Sans toi, la terre souffre de tourner mal. Ouh, sans toi, les gens s'appuient sur du bancal. Quand j'entends leur peine, mon cœur est triste et me pousse à pleurer. Quand je vois la haine, je me demande où ça va nous mener. Comment peut-on rester froid face à son prochain quand tu nous tiens la main? Toi, tu nous rappelles qu'à chaque fois que nous l'aidons, c'est toi que nous honorons.
Tu n'es pas là,
tu n'es pas là.
Je t'ai donné à toi de partager.
Toi de partager.
Tous tes talents ne sont pas ici.
Dieu
t'a donné, c'est à toi de bouger.
À toi de bouger.
Tant de besoins, de misère autour de nous. Là où nous sommes, agissons autour de nous. Dieu nous a donné des capacités. Nous avons la lumière,
Vous avez une question ? Posez-la en direct en appelant le 04 72 38 20 23 ou écrivez-la par courriel à un prêtre vous répond @rcf.fr.
Il est 21h44, vous venez peut-être d'arriver sur notre antenne RCF, alors bienvenue, vous sera possible bien sûr de réécouter le début de cette émission sur notre site rcf.fr. Le Père René-Luc vous répond ce soir, nous avons un courriel de, je cherche son prénom, de Louis, qui reprend la définition du sport dans le dictionnaire et qui nous dit, le mail est un petit peu long, donc je vais le prendre en synthèse, vous m'excuserez Louis, le sport, activité physique à but non utilitaire, obéissant à certaines règles et comprenant souvent une part de compétition. Ça, c'était la définition en 1828. En 1939, au singulier désignant une de ses activités. En 1953, au singulier tout ou partie de ses activités, exercice de sport. Ensuite, mot emprunté à l'anglais, sport attesté depuis le 15e siècle au sens de amusement, passe-temps et jeu, distraction, on en a parlé, d'où en particulier distraction de plein air à base d'exercices physiques, etc., etc. Voilà. Je me reconnais, dit-il, dans l'activité physique qui est saine, tout comme le labeur, au sens du laborare, labourer la terre, qui est une vertu humaine de construction, donc pas du tout dans la compétition et encore moins dans le fric qui l'accompagne, je cite. Voilà, désolé d'avoir été long. On vous excuse, Louis, merci pour votre mail. Père René-Luc, ça vous permet de dire quoi, ce message de notre auditeur Louis ?
Oui, mais c'est bien parce que Louis aborde un sujet que on est bientôt à la fin de la mission et je trouve que c'est vraiment nécessaire de l'aborder.
Il l'a senti.
Il l'a senti. Arnaud Boutéan, dans son livre dont je vous ai parlé, comme un athlète de Dieu, pour ceux qui sont vraiment passionnés par cette émission, qui veulent creuser, je vous conseille d'abord la revue Jésus, mais ensuite son livre. Il a un chapitre qui s'appelle Idolâtrie païenne et mercantile. C'est évident que lorsque le sport, et comme vient de le dire notre auditeur, enfin Louis qui vient d'envoyer cet email, lorsque le sport est une activité physique saine, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'il y a la compétition, je pense que ça peut rester sain. La compétition, c'est pas méchant. Lorsque quand on est gamin, on joue à la course, c'est fait partie de des choses normales. Ça me gêne pas. C'est pas le côté compétition qui me gêne, mais par contre, tout de suite, quand il dit le côté du fric qui l'accompagne, et lorsque la compétition n'est pas quelque chose de serein, mais qui devient quelque chose de mercantile. Alors pour ce qui est de l'aspect compétitif, justement, j'insiste sur ce point-là. Le pape François insiste beaucoup pour développer le jeu amateur. Il dit, voilà, ce qui doit nous éviter de nous prendre la tête et de devenir dans une spirale qui n'a plus de sens, il faut que le jeu reste l'occasion de faire du sport pour les enfants, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, voilà. Tant qu'on a cette attention-là de développer le sport amateur, et normalement, vous savez que la Ligue doit reverser une partie de son argent pour développer le sport au premier niveau. Donc, et que ça reste une activité saine, vous voyez. Par contre, le côté de l'argent, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que comme on vient de le dire dans ce livre là de Arnaud Boutéan, il explique même, d'ailleurs c'est assez marrant dans son article, que Tertullien au IIIe siècle, eh bien, ont combattu les ravages du sport violent et décadent. L'empereur Théodose disait qu'il faut tenir les citoyens par leur instinct et que donc du coup il faut arrêter cela parce que en 393 ils ont arrêté les Jeux Olympiques parce qu'ils étaient l'opium d'un peuple inoptisé par le pain et les jeux. Vous voyez, donc c'est pas nouveau. Et comme le dit Arnaud Boutéan, souvent, très souvent, l'histoire repasse les plats. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est impressionnant. Je vois même dans un match de foot, je parle du foot un peu trop ce soir, mais voilà, c'est ça fait partie des sports que je connais le mieux. À l'entrée des joueurs, autrefois, il y avait les joueurs qui rentraient. Aujourd'hui, c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire il y a une grosse musique. Ils sortent bientôt, on va voir les je sais pas comment on appelle ça, les pom-pom girls qui vont être là pour leur faire une allée. Enfin, c'est le sport spectacle, c'est le sport business. On est dans les revendications de droits télé, on est dans tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise avec le salaire des joueurs et c'est choquant. Alors moi, j'ai pas la je peux peux pas, comment dire, personnellement juger ça, parce que j'en ai pas le droit ni les moyens. Enfin, si, je peux avoir un avis, mais j'ai pas les solutions. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de très choquant, et c'est évident que, comme dans toute chose, c'est comme dans le travail. Dans le travail, il y a des bonnes choses, mais le trop de travail au profit de l'argent, le capitalisme à outrance, au dépit des pauvres, eh bien c'est pas bon du tout. Eh bien, c'en est de même pour le sport. Ne soyons pas naïfs, le sport a sa grosse zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, c'est justement lorsqu'elle suit le capitalisme à outrance. C'est du business, c'est de l'argent, et l'argent, Jésus nous a dit une chose très claire, nul ne peut servir deux maîtres, ou il sert Dieu, ou il sert l'argent. Lorsque le sport sert l'argent, il ne sert pas l'homme. Il sert le contraire de l'homme. Mais ce n'est pas parce que des gens servent mal l'homme à travers le sport qu'on doit dire que le sport en lui-même est mauvais. Voilà, c'est ça. Je dis ça parce que des fois, j'ai reçu un email, parce que je soutiens Giroud, j'ai reçu un email assez remonté d'un auditeur, d'un lecteur, pardon, qui me dit « Comment ça, vous intervenez dans un magazine ? Tout ça, c'est tous ces gens-là, ils servent Satan. » Là, j'étais vraiment choqué. J'ai pas répondu à cette personne-là parce que on peut pas dire que les sportifs, parce qu'ils ont de l'argent, servent Satan. Ce que fait Giroud, c'est justement tout le contraire. C'est de montrer qu'on peut servir Dieu même en ayant beaucoup d'argent et en ayant voilà. Mais c'est sûr que je pense que lui-même Giroud, si on le mettait autour d'une table, des gens comme eux diraient on pourrait avoir quelque chose de plus raisonnable, parce que là on est dans des excès, ça c'est sûr.
Très bien, on va écouter Francis de Mérignac tout de suite, qui est en ligne. Bonsoir Francis, merci d'avoir composé notre téléphone 04 72 38 20 23. On vous écoute.
Oui, bonjour et merci pour votre belle émission. Non, je voulais rebondir sur deux points. D'une part, effectivement, reparler des valeurs du sport. Et moi, j'ai la chance d'animer un club sportif à Mérignac. Et notre acronyme, nos valeurs, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le corps. Donc CORPS, c'est-à-dire la convivialité, l'ouverture, le respect, la performance et la solidarité. Et donc, ce sont évidemment des valeurs qui sont très fortes. Et je crois qu'on pourrait aussi parler... Je n'ai pas entendu tout à l'heure de tous les bénévoles sans lesquels le sport ne serait pas possible. Mm-hmm. Et pour pas trop monopoliser l'antenne aussi, je voudrais signaler un homme extraordinaire qui s'appelle Jacques Secrétin, que tout le monde connaît parce qu'il a été un des meilleurs pongistes de ping-pong donc il y a quelques années. Et actuellement, il y a une vidéo qui tourne de sa part et qui fait une apologie du sport et de la performance et du respect qui est extraordinaire. Je rappelle que Secrétin aussi anime des choses dans les prisons, etc. Enfin voilà. Et grâce au sport, il fait passer beaucoup de choses. Et je voulais aussi apporter ce petit clin d'œil de cet homme extraordinaire. Et puis vraiment valoriser les bénévoles parce qu'ils sont extraordinaires dans le sport.
Voilà. Merci beaucoup Francis, à part René Luc.
Je rebondis juste en disant que moi-même, donc j'ai toujours pratiqué du sport, surtout du foot, depuis très 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 jeune. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai joué en club. J'ai joué même quand j'étais prêtre en club. Puis après, j'ai vécu une petite étape dans le Tarn où j'ai joué au rugby dans un club. Et puis en 2012, j'ai eu un grave accident de moto. Et ce grave accident de moto fait que je peux plus courir. J'ai une jambe j'ai un bassin fracturé qui a été ressoudé. J'ai fait 6 mois d'hôpital, 1 an et demi de rééducation. Et ce qui me sauve, je dis ça parce que notre auditeur vient de nous parler de la mer, c'est qu'en arrivant à Montpellier, en étant tout triste de plus pouvoir courir, j'ai découvert un sport magnifique que je pratique, qui est sur la mer, qui est le kitesurf. Et je fais énormément de kitesurf. D'ailleurs, dans le Jésus Magazine, il parle un peu du fait que je fais du kite parce que c'est un magazine de sport aussi. Et tout ça pour dire que moi, j'aurais pas eu ce sport-là, je pense que je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, parce que j'ai toujours vécu dans le sport. Ça fait partie de mon équilibre. Et depuis avoir de sport pendant 1 an et demi, j'étais paniqué. Je me dis, mais quel sport je vais pouvoir faire? C'est horrible. Et voilà que grâce au sport, au kitesurf, je peux, parce que le kite, on peut très bien en faire même avec un bassin fracturé, parce qu'on est tenu par un harnais, donc c'est parfait. Voilà, tout ça pour dire que c'est génial de voir comment le sport, les valeurs que devait nous parler notre auditeur, c'est Karine, je crois, hein, c'est ça?
Non. Alors, notre auditeur, c'est Francis.
C'est Francis, pardon. C'était Francis, et donc du coup notre auditeur.
Karine, on va en parler après.
Ah oui, pardon. Auditeur qui était au bord de la mer, hein, c'est ça. Je ne pas trompé, qui parlait
Francis,
de la natation, etc. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je rebondis juste en disant que vous voyez comment les valeurs dont il parle peuvent nous permettre de rebondir dans notre vie, quoi.
Alors justement, on a un mail de Karine qui dit « J'ai la chance de vivre aussi au bord de la mer et j'essaye d'aller nager chaque jour de l'année dans cet élément naturel donné par Dieu. Voilà, quand je nage, je prie, je vous salue Marie, etc. etc. » Merci pour votre émission, merci à Karine. On a aussi ce mail de Anne-Marie qui dit « Le sport est aujourd'hui un business, c'est vrai, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même chez certains sportifs une soif d'absolu et d'engagement dans des associations humanitaires pour venir en aide aux enfants, soit malades, soit en difficulté. Et voilà, il est difficile parfois de prendre position. Vous voulez dire un mot sur
ce mail? Justement, deux choses. C'est que Olivier Giroud, justement, a pris position pour les chrétiens persécutés. Donc, de manière très concrète, et il a participé à plusieurs actions là-dessus. Il en parle dans les médias. Et je voudrais finir avec quelque chose auquel j'ai participé en tant qu'aumônier. Il est depuis Marseille jusqu'à Beyrouth. Il a été organisé au mois de juin de cette année la route du Liban. C'est-à-dire, c'est une sorte de navigation. Il y avait, je crois, 60 voiliers. Et c'est à l'initiative d'un marin qui est très connu, qui s'appelle Jean-Marie Vidal, qui est de Montpellier, qui a gagné le Figaro, etc., qui est très connu dans le milieu. Et c'est extraordinaire, ils ont lancé ça, donc une sorte de pas de course, hein, plutôt une navigation, mais peut-être qu'il y aura un projet plus tard de faire une course, pour donner un coup de projecteur sur la situation des chrétiens persécutés de manière générale en Orient et en particulier au Liban. Et quand on sait ce qui se passe aujourd'hui avec tous les la difficulté qu'il y a, on se dit qu'ils étaient bien inspirés. Vous voyez comment le sport peut être un vecteur encore de construction, d'éclairage et de soutien. Donc là, Anne-Marie nous parlait des associations humanitaires, mais là je parle de Giroud qui parle des chrétiens persécutés et de la route du Liban qui donne un coup de projecteur sur SOS Chrétien d'Orient, sur l'œuvre d'Orient, toutes ces œuvres humanitaires, toutes ces œuvres spirituelles et d'église qui viennent au soutien des chrétiens persécutés. C'est génial.
Alors on a peut-être le temps encore, il nous reste 3 minutes de prendre un dernier auditeur, ou plutôt une auditrice, oui. Yvette de Dijon, qui est ancienne catéchiste. Bonsoir Yvette, je vais vous demander de faire assez rapide votre témoignage, s'il vous plaît.
Simplement pour vous dire que les enfants de notre temps, c'était dans les années 80 comme aujourd'hui, ils ont des idoles. Et je leur avais posé la question, quelles sont vos idoles? Ils disaient tous Giresse, un footballeur de Bordeaux, dont la maman était catéchiste, mais ça, ils ne le savaient pas. Et finalement, avec ces méthodes comme ça, directes et actives, et puis très proches d'eux, on arrivait au grand héros, Jésus, si vous voulez, par des choses détournées, en disant que lui aussi méritait d'être ovationné, c'était un vrai héros, puis on racontait tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait fait et tout. C'était pour les marquer, si vous voulez. C'était vraiment des méthodes actives. On avait un formateur qui était comme ça, formidable, et ça marchait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Bravo, merci. Yvette.
J'ai suivi vos émissions, c'est très bien.
Merci beaucoup, Yvette. Alors, Père René Luc, vous pouvez...
Je vous dis, on se sert des idoles aussi.
Eh bien, vous allez dans le même sens, hein, effectivement. Père René Luc.
Tout à fait. Je finis avec justement une autre idole qui est moins connue par les générations d'aujourd'hui, mais que moi je connais bien parce qu'il a 49 ans, il s'appelle Guillaume Varmus, il était le gardien emblématique du RC Lens, et dans le Jésus Magazine, on lui demande un lieu qui vous rapproche de Dieu, point d'interrogation, il répond « Ma région est riche d'une histoire religieuse merveilleuse, il a l'abbaye de Cluny, pas très loin de chez moi, son rayonnement est immense dans la région, si je devais choisir, je dirais la chapelle de Saint-Léger, bien entendu, l'abbaye de Flavigny. » Voilà, un gars qui parle d'une abbaye dans laquelle il aime venir se retirer, il a un témoignage extraordinaire sur sa vie, et il est même, on le voit en photo, devant une petite chapelle qu'il a fait au fond de son jardin. C'est quand même incroyable, je vous assure, il a fait une petite chapelle au fond de son jardin d'inspiration bénédictine alors qu'il était un champion connu nationalement, internationalement. C'était un gardien de foot incroyable. Vous voyez, c'est touchant quand même.
Oui, c'est touchant. Magnifique émission, magnifique sujet. Merci beaucoup, Père René Luc, de l'avoir proposé. Merci
c'est
à vous.
C'est toujours un plaisir avec vous, Catherine.
Plaisir partagé. Prochain rendez-vous à noter, mercredi prochain, le 13 novembre. Être jeune et chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? On sera avec le Père Pierre Brugidoux. C'était Marie à la technique de RCF à Montpellier, Pascal à la technique de Lyon, devant moi, et Laurent au standard de l'émission sur la droite. Voilà, que votre nuit soit douce.